Bien, bonjour. Je suis Pierre Lequeo de l'Université de Grenoble, Grenoble-Alpes. Et je vais peut-être vous présenter quelques résultats d'une étude qui est en train de se terminer. On est en train d'écrire le rapport final. Et portant sur les impacts des bibliothèques de lecture publique. Donc, cette étude est une commande donc, enfin je crois que Christophe Evans en a parlé ce matin, fait partie d'un lot en quelque sorte, en impliquant bien d'autres, essayant d'évaluer en gros à quoi servent les bibliothèques finalement. C'est peut-être un résumé un peu. Donc un volet de plusieurs études qui vont porter sur les impacts sociaux, économiques des bibliothèques et des bibliothèques universitaires. Et je vais vous présenter celle à laquelle j'ai participé et qui porte sur les impacts alors, auprès des publics des bibliothèques. Donc cette étude a été réalisée très rapidement en deux temps. On a d'abord beaucoup consulté la littérature. Donc c'est une étude de ce qu'on appelle survey, c'est-à-dire on a principalement lu tout ce qui avait été écrit sur les bibliothèques, et puis on a fait quelques entretiens pour tester un peu nos hypothèses. Donc la question est de savoir ce que l'on entendait tout d'abord par impact. C'est-à-dire que en gros, voilà, on appelle impact ce qui modifie plus ou moins profondément et plus ou moins durablement le comportement des gens qui sont visés par une action. Que cette action soit, enfin que cet effet ou que ces impacts soient voulus ou pas. Et donc cette notion d'impact, c'est-à-dire quel est l'effet, enfin quelles sont les transformations induites par l'action des bibliothèques auprès des publics qui les fréquentent. C'est une notion qui s'est précisée au fur et à mesure de nos lectures. Et ici, je donne quelques points un peu de notre méthodologie. Il s'agissait d'essayer de classer tout ce que l'on disait sur les bibliothèques à travers les grands enjeux, c'est-à-dire quels sont les grands défis que rencontrent les bibliothèques, quels sont les buts qu'elles se proposent de poursuivre, par quelles actions. Et puis, vers quel genre de cible? Alors, il faudrait ici distinguer un peu tout ce qu'on a exploré en termes d'usagers, de bénéficiaires. Évidemment, un usager, c'est le public le plus évidemment visé par l'action d'une bibliothèque. Mais les bénéficiaires sont ceux qui sont autour, par exemple. Et on entendra, nous, comme impact, ce qui peut toucher les bénéficiaires et pas simplement les usagers. Et parmi les usagers de bibliothèques, il n'y a pas simplement ceux qui viennent y lire ou y faire autre chose, mais il y a un écosystème autour des bibliothèques, des fournisseurs, des prestataires, etc. C'est pas exactement là-dessus qu'on s'est finalement fixé. Il y a des effets qui sont attendus. Et puis, c'est là, à partir de ça, qu'on a essayé d'identifier, de formuler quelques impacts. Donc, finalement, les enjeux, on a identifié cinq grands enjeux. Une bibliothèque, ça sert à diffuser de la culture. Enfin, ça porte sur de la culture, sur de l'information, sur de l'éducation, de la formation, de la sociabilité ou de la conservation et la construction du patrimoine. C'est un peu les grands enjeux des bibliothèques. Et dans chacun de ces grands enjeux, par exemple, il s'agit de rendre accessible une ressource, que ce soit livre, DVD, CD ou autre chose, images, etc. Il s'agit aussi alors non seulement de rendre accessible, mais aussi d'accompagner les publics vers ces objets culturels. Et puis de mener tout un tas d'actions visant à élargir. Donc en fait, ces trois objectifs que finalement on a identifiés comme étant des fonctions, on les retrouve partout dans la culture, par exemple. J'ouvre des rayonnages de livres, j'accompagne les gens vers la lecture, et je crée de l'animation culturelle autour du livre pour essayer d'élargir mes publics et d'élargir aussi l'horizon culturel des publics pour essayer de leur faire découvrir des littératures qu'ils ne connaissent pas. et ainsi de suite. Alors, voilà, notre méthode, c'est qu'on a lu, je sais pas, des dizaines de livres en 2 mois pour essayer d'aller vers l'identification des impacts, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que ça fait de lire, qu'est-ce que ça fait d'écouter de la musique, et qu'est-ce que ça fait, enfin bref, voilà, qu'est-ce que ça fait. Donc, c'est comme ça qu'on a, dans un premier temps, ben, vous voyez, les 3 fonctions, rendre accessible, accompagner. On a essayé enfin, si on résume ça en termes d'effets attendus, c'est-à-dire qu'on a, il est très explicite dans beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'articles, etc., qu'il y a des effets qui sont attendus de ça. Si on élargit les publics et qu'on crée de l'animation culturelle, c'est pour élargir son public, intensifier la fréquentation, faire venir plus souvent, augmenter éventuellement les pratiques culturelles. Mais ce qu'on appelle impact, c'est un peu autre chose. Ça, c'est ce que vous savez déjà, enfin, ce que les bibliothécaires connaissent déjà, ce qui se fixe souvent comme objectif. Mais il y a quelque chose d'autre qui est derrière. Alors, parmi ces autres choses qu'on appelle des impacts, il y a sûrement des éléments qui vous sont déjà familiers et d'autres qui le sont peut-être un peu moins. Par exemple, alors, en ce qui concerne, par exemple, l'enjeu qui consiste à essayer de dynamiser l'activité culturelle d'une bibliothèque sur un territoire, en rendant accessible une ressource, en accompagnant les publics vers cette ressource et en essayant de proposer des activités permettant d'élargir, on contribue bien sûr au thème bien connu de la démocratisation culturelle et de l'égalité des chances, en tout cas dans certaines conditions. On participe aussi au développement des littératies, c'est-à-dire des procédés par lesquels on comprend non seulement ce qui est contenu dans ces objets, mais à leur donner une signification dans des pratiques, dans des mondes qui sont autour. On développe les compétences cognitives et en participant à la construction de l'intelligence des individus, on obtient des effets sur les interactions entre les gens, en élargissant par exemple, en les rendant peut-être un peu plus capables d'être tolérants à l'égard d'autrui, d'avoir des actions plus civiles ou citoyennes. Et comme ça, en quelque sorte, en partant de l'individu et en essayant d'évaluer un peu les effets par en montant d'un cran à chaque fois, on peut envisager le fait que, par exemple, proposer des animations culturelles et faire intervenir des artistes dans les bibliothèques, ça participe aussi au développement du réseau des acteurs culturels locaux. Et puis à l'activité culturelle locale d'une certaine manière. Et puis, en dernier lieu, ça participe du rayonnement culturel, et pas que culturel, mais du territoire. Donc, vous voyez, cette espèce de fiche, de ce qu'on appelle une grille d'analyse, nous l'avons passée sur tous les enjeux que je vous ai montrés, c'est-à-dire culture, information, éducation, formation, sociabilité. On a analysé comme ça tous les objectifs, tous les effets et pour essayer d'identifier des impacts dans tous ces domaines-là. Donc, par exemple, augmenter le niveau éducatif du territoire, c'est-à-dire participer à des actions qui, soit en direction des publics scolaires ou périscolaires, visent à les améliorer leur capacité de lecture d'écoute de la musique ou des choses comme ça. Donc on a effectivement toujours l'objectif, enfin les impacts liés à la démocratisation culturelle, quand on essaie de faire découvrir des genres de musique inconnus à des jeunes gens, c'est important. On a dans le petit terrain, par exemple, la petite enquête de terrain que nous avons réalisée pour tester nos hypothèses, il y avait notamment une petite... une bibliothèque de banlieue parisienne qui est une situation un peu difficile, la population, on va dire, de la commune où était cette bibliothèque. Et les efforts fournis par justement tous les jeunes écoutant déjà un certain type de musique, donc il s'agit d'attraper ces jeunes-là en leur proposant cette musique, mais en essayant aussi de leur faire découvrir d'autres musiques que celles à laquelle ils étaient déjà habitués. Donc, en participant à la démocratisation, on essaye de promouvoir une plus grande égalité des chances de chacun. Et on participe aussi à une meilleure réussite scolaire et ou universitaire. Pareillement, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je reviendrai de façon un peu plus détaillée sur ces impacts. Je vous essaye de vous expliquer notre méthode, notre grille d'analyse. Et développer et augmenter le niveau éducatif du territoire, ça peut aussi servir, ça peut avoir comme impact de travailler sur ce qu'il est convenu d'appeler l'employabilité du territoire, c'est-à-dire le niveau de la main-d'œuvre qui pourrait être susceptible d'être employée sur ce territoire. Mais ce n'est pas que la main-d'œuvre elle-même, c'est aussi l'ensemble des ressources dont bénéficie cette main-d'œuvre pour se rendre employable. Voilà, donc j'espère que vous voyez ce que c'est qu'un impact. C'est une espèce de transformation induite par l'action sur des individus et sur des collectifs. C'est pour ça qu'en résumé, ici, ce sont tous nos impacts. En tout cas, ce qu'on a essayé d'identifier et de formuler, c'est donc des impacts qui partent des individus, c'est-à-dire l'effet qu'a l'action d'une bibliothèque sur la personne qui la fréquente, jusqu'à des effets macro-sociaux sur l'ensemble du territoire. Vous allez voir, c'est assez logique. C'est-à-dire que si on, par exemple, les facultés cognitives, si on améliore ou on entraîne un peu mieux les publics des bibliothèques à exercer leurs facultés cognitives, tout ça va avoir des effets macro-sociaux sur, je ne sais pas, le soutien à la démocratisation, l'employabilité, la tranquillité publique. Et puis, finalement, un territoire assez paisible et donc attractif, enfin plus attractif. Donc, l'idée, c'est de, dès le départ, c'est d'essayer de... Alors, ce terme n'est pas tout à fait bon, mais scientifiquement, c'est celui que l'on a employé et que je vais vous expliquer tout à l'heure, d'essayer de trouver des justifications à l'existence des bibliothèques pour essayer de construire des plaidoyers. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, dans un contexte budgétaire qui n'est pas toujours très facile, essayer de justifier l'action qui est menée par une bibliothèque ou par des bibliothèques ou des ensembles, des réseaux ou des systèmes bibliothécaires pour essayer de continuer de maintenir leur existence, voire à la développer à essayer de continuer à produire ces effets-là et qui sont des effets qui se justifient, comme vous le voyez, par des effets sociaux, macro-sociaux et qui ont des aspects économiques, des aspects de sécurité publique, par exemple. Toutes sortes d'aspects qui se situent en quelque sorte en dehors de la bibliothèque elle-même. Mais alors, le terme de justification n'est pas tellement bon parce que je veux dire qu'il faudrait justifier l'existence des bibliothèques, ce qui est pas toujours, ce qui en soi est un peu pas très habile. Mais je vais essayer de vous montrer comment comment tous ces impacts peuvent se comprendre dans des univers de justification différentes et qu'en fait, il y a aussi derrière ces impacts une manière de les comprendre et de les traduire à différents interlocuteurs comme des élus, mais ça, pas seulement des élus, pour essayer de leur faire comprendre les enjeux qui sont sous-jacents à ces impacts. Alors peut-être pour éclairer un peu mieux ce qu'on entend par... impact et rentrer dans les détails, c'est que vous voyez ici, il y a une quinzaine d'impacts. Alors, il ne s'agit pas que de considérer que chaque bibliothèque doit avoir un effet, doit poursuivre tous ses impacts. Il ne s'agit pas de ça du tout, mais disons qu'une bibliothèque idéale typique, qui n'existe probablement pas, va poursuivre un registre d'impact ou plusieurs parmi ces 15 ou 16-là. Ou alors, il faut les comprendre de façon tout à fait... particulière, de façon très singulière. Par exemple, attractivité, rayonnement du territoire. Si on pense que dans certains territoires ou certaines grandes métropoles, on construit de grandes bibliothèques qui sont des grands équipements culturels qui ont une vocation non seulement à être attractifs, mais à rayonner, y compris à l'international. Évidemment, ça ne colle pas à toutes les bibliothèques, mais la petite bibliothèque d'une commune de la Drôme que nous avons rencontrée aussi, ce n'était pas un rayonnement international, mais au moins dans son canton. Et c'était, l'enjeu pour elle n'était pas moindre. Enfin, pour elle, c'était exactement la même problématique. Voilà. Donc il faut vous présenter des choses un peu théoriques et puis après on va essayer de les mettre en lien dans des situations qui sont tout à fait relatives, etc. Mais avec des indications aussi sur comment est-ce qu'on peut essayer d'évaluer ces impacts, dans le prolongement un peu de ce qui a été dit ce matin sur la mise en œuvre d'enquêtes, etc., qualitatives ou quantitatives, pour essayer de rendre compte et d'expliquer pour le fonctionnement, enfin les impacts d'une bibliothèque. Par exemple, les facultés cognitives. Donc, dans notre rapport, ce que nous sommes en train d'essayer de faire, c'est d'essayer d'expliquer de façon aussi scientifique que possible. C'est-à-dire que lire, écouter de la musique, etc., c'est pas une activité... Enfin, c'est une activité à laquelle on peut se livrer pour ses loisirs, mais franchement, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est-à-dire que c'est un entraînement intellectuel qui a des conséquences extrêmement importantes pour l'ensemble du processus que nous essayons de décrire. Et pour, en tout cas, ici, le processus de la construction d'un individu. Alors, ce qu'on appelle les facultés cognitives. Alors là, on est vraiment dans le cerveau de l'individu. Lire, écouter de la musique, pratiquer des arts, quels qu'ils soient. Ça consiste à essayer de mettre en œuvre des processus mentaux qui permettent de s'adapter au monde qui est le nôtre. Donc le développement de diverses facultés comme attention, mémoire, attention, enfin voilà, les régimes de l'attention de nos jours, c'est assez, enfin c'est un problème d'actualité assez important. La mémoire, le langage écrit oral, les représentations spatio-temporelles, enfin bref, tout ce qui permet. Toutes les facultés qui permettent à l'individu d'interagir avec autrui en entraînant ses compétences à construire des représentations du monde et des intentions d'autrui. Donc sous cette définition générale, il y a des actions qui sont menées et qui peuvent être extrêmement variables, qui concernent par exemple, à proprement parler, la lecture. Donc la lecture, il y a tout un tas d'ouvrages et tout un tas d'articles scientifiques qui permettent de justifier quels sont les bénéfices intellectuels de la lecture. Donc, pour le traitement cognitif, le traitement de l'information, la faculté de représentation, l'attribution de sens, et enfin, l'augmentation du répertoire des connaissances. Alors, la lecture, alors voilà, on souligne lecture, mais je ne sais pas s'il existe, par exemple, dans les actions qui sont menées auprès des enfants, beaucoup de lecture en soi. Enfin, il y a de la lecture, mais de la lecture accompagnée qui suppose aussi une geste corporelle avec des supports, par exemple des objets, etc. Alors, dans la petite bibliothèque de la Drôme, par exemple, la bibliothécaire faisait des lectures accompagnées auprès des enfants en variant les supports, images, sons, chants, lectures, avec des objets qu'elle a prélevés dans la nature, etc. Enfin, voilà. C'est associer des univers, enfin, comprendre le sens des informations, de la représentation, essayer de les lier entre elles. Donc, c'est tout à fait important. Et alors, non seulement dans la lecture, mais c'est presque bien connu pour la lecture. Mais pour l'éducation artistique, qui est souvent traitée de façon un peu plus légère, y compris dans les programmes d'enseignement scolaire, l'éducation artistique et musicale, par exemple, produit le même genre d'effet. Le même genre d'effet. Alors, ça peut être des effets assez différents ou qui travaillent des compétences dans ce qu'il est convenu d'appeler le schéma corporel, qui sont un peu différentes, mais qui travaillent le même cœur de faculté. Donc la mémoire serait excellente, enfin la musique serait excellente pour la mémoire, l'entraînement de la mémoire et la représentation d'objets abstraits, absents en particulier. Et puis, les découvertes de la danse ou des arts plastiques renforcent des compétences dans la faculté de se représenter les formes géométriques, l'espace et le temps ou l'articulation du langage, en particulier quand on écoute du chant ou qu'on pratique le théâtre, enfin toutes ces... Voilà. Ces choses-là. Donc la formation du cerveau humain dans sa capacité, le hardware presque, c'est la machine corporelle, est façonnée par ce genre d'action. Et ces actions, on va le voir après, produisent des effets qui sont extrêmement encourageants et favorables à l'interaction et au monde possible entre plusieurs personnes. Donc les actions, c'est la lecture, c'est l'éducation artistique. Ça concerne tous les publics. On a, évidemment, éducatif, on pense enfant, c'est certain. Mais vous savez certainement que dans certaines régions un peu rurales, ces ateliers concernent aussi maintenant beaucoup les personnes âgées, enfin vieillissantes. Mais on a rencontré dans d'autres bibliothèques des actions qui sont menées précisément en direction des publics dits vulnérables, en particulier sous l'angle de la déprivation culturelle. C'est-à-dire des gens qui ont atteint un tel niveau d'éloignement des objets culturels, en fait, qu'ils ont du mal à se représenter et à articuler du langage, tout simplement. Donc, alors, développer ce qui justifie, sous l'angle que je discuterai après, donc, l'existence d'une bibliothèque, c'est qu'elle participe à la construction de l'intelligence des gens qui les visitent. Ça peut s'évaluer. Ça s'évalue, et dans notre rapport, nous sommes en train d'essayer de proposer tout un tas de situations. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier du vocabulaire de l'évaluation, mais s'il en a été question ce matin, je vais y arriver un peu tard. Mais, l'évaluation, ça peut se faire avant, pendant et après une action. Donc, on dit techniquement comme ça, l'évaluation ex ante, dans le cours, et ex post. Et ici, on peut évaluer les impacts des bibliothèques sur les facultés cognitives avant, pendant et après. Et on peut le faire en outre en utilisant différentes sortes de données, par exemple des données qui sont descriptives de l'environnement social de la commune ou du territoire sur lequel une bibliothèque est située, ou bien en recueillant des données qu'on appelle ad hoc, c'est-à-dire qu'on va aller chercher de façon singulière, que ce soit des données quantitatives ou des données qualitatives. Alors je suis arrivé juste à temps ce matin pour entendre parler de recueil de données qualitatives. Ça me paraît très intéressant et je pense que ça contribuerait plus facilement à construire un plaidoyer, c'est-à-dire comprendre l'impact qu'a une lecture, par exemple, sur des gens. Je vais en donner un exemple un peu plus marrant tout à l'heure que les facultés cognitives, parce que ça fait un peu sec les facultés cognitives, mais faire parler les gens de leur goût, que ce soit littéraire, musical ou voilà, peu importe, c'est toujours beaucoup plus intéressant. Dans les enquêtes, d'une façon générale, quand on pose des questions aux gens sur quelque chose qui les touche ou qui les intéresse, c'est ce qui est là, pour le coup, justifié au sens propre du terme, une enquête en sciences humaines. C'est de poser des questions aux gens, des questions qui les intéressent. Donc, évaluer l'impact sur les facultés cognitives, ça peut consister, pour mémoire, à recueillir des données qui existent déjà. Notamment, au-delà de l'action d'une bibliothèque, les données de l'INSEE, par exemple. L'INSEE est un réservoir sans fin de données, alors là, souvent statistiques, mais le chiffre, oui, c'est pas très... C'est un peu sec aussi, parfois, le chiffre, mais ça peut donner un cadre qui permet d'évaluer les transformations, en tout cas, d'une population, de ses goûts et de ses besoins aussi. Donc, par exemple, la petite bibliothèque de la Drôme dont je parlais, l'entretien que nous avons eu avec cette bibliothécaire lui a permis de prendre conscience du fait que la population de sa commune était en train de changer, de devenir ce qu'on pourrait appeler rurbaine, c'est-à-dire que petite commune de 300 habitants qui est située dans une zone rurale, mais le prix du mètre carré, même à Valence, augmentant de façon très rapide, beaucoup de gens trouvent des mètres carrés de l'espace, surtout les familles en particulier, à l'extérieur des zones urbaines, et donc s'installent à 50 km de Valence. Le logement y est moins cher et on a plus d'espace. Et donc, du coup, la population de ce village était en train de se transformer, c'est-à-dire d'accueillir de plus en plus de familles de catégorie moyenne, employés, techniciens, etc., avec de très jeunes enfants. Donc, du coup, cette bibliothèque qui a été refaite il n'y a pas très très longtemps, une dizaine d'années, en fait, devenue une espèce de lieu d'accueil, parce qu'en fait, dans ce village, il n'y a en outre pas grand-chose d'autre que la bibliothèque, mais enfin, un accroissement quantitatif, en tout cas, de la population, mais aussi qualitatif, parce qu'on a quand même des populations qui sont, on va dire, du secteur tertiaire, qui n'ont pas du tout la même culture, ni les mêmes besoins qu'une population anciennement rurale. Et donc, il y a quand même ici quelque chose qui peut permettre d'extraire un signal qui dit « Tiens, la population est en train de changer, ses goûts, sa manière de penser, sa manière de se situer dans le monde n'est pas du tout la même. » Donc là, il y a quelque chose à aller chercher. Ces statistiques, elles sont souvent au niveau communal ou intercommunal, souvent récupérées aussi par les structures, les collectivités locales, pour réaliser ce qu'il est convenu d'appeler une analyse des besoins sociaux. Je ne sais pas si vous êtes au fait de ça, mais toutes les communes ont l'obligation légale de réaliser une analyse des besoins sociaux régulièrement, en tout cas. pour essayer de décrire les changements de population quantitativement, mais aussi qualitativement. Enfin, moi qui dirige souvent les analyses des besoins sociaux dans tout le territoire de l'agglomération grenobloise, on comprend toujours des volets qualitatifs désormais, qui permettent de dire, par exemple, une augmentation de la catégorie des personnes, des jeunes retraités, par exemple, ça va devenir à terme un problème de vieillissement. Et du coup, il y a quelque chose à prévoir ou à anticiper sur certains types d'activités ou de propositions, en tout cas, pour accompagner ce public dans ce nouvel âge. Donc, il ne s'agit pas simplement de décrire donc, une proportion de personnes âgées, mais d'essayer de qualifier les besoins de cette population. Et puis, puisqu'on parle ici de dimension un peu scolaire, le rectorat, les rectorats possèdent des statistiques, mais collège par collège, lycée par lycée, avec des indicateurs qui sont extrêmement nombreux sur les taux de performance. Alors, c'est pas non plus très, très joli, mais des élèves. Mais là aussi, on peut recueillir des données qui peuvent être assez intéressantes sur les taux d'échec, les taux de réussite, sous un angle ou sous un autre, et qui peuvent donner une espèce de tableau d'image un peu cohérente, en tout cas, des publics ou des problématiques qui traversent une population. Donc ça concernerait plutôt une évaluation ex ante, c'est-à-dire avant, à quoi ressemble ma population à laquelle je m'adresse, pour essayer de savoir qu'est-ce que je peux faire, et puis, mais aussi ex post, parce que est-ce que les indicateurs bougent dans le temps ? Est-ce que quelque chose change dans ma population ? Et donc, du coup, la question, c'est quelle serait ma contribution à moi, bibliothécaire, dans cette évolution, cette transformation ? Donc, il y a des données statistiques qui existent et il y en existe plein. On est quand même un pays dans lequel on produit de la donnée, mais au kilo. Les universités en produisent elles-mêmes, par bout. Souvent, on recommence d'ailleurs les études qui ont déjà été réalisées, ainsi de suite. Et puis, les bibliothèques, elles aussi, produisent des données, souvent quantitatives, dans leurs données d'exploitation, c'est-à-dire qui vient, à quelle fréquence, etc. Mais c'est souvent assez descriptif et peu fin. Mais on peut essayer d'améliorer le recueil des informations, sauf à importuner vraiment trop les usagers en leur posant une liste de questions à tous les usagers, une liste de 50 questions, ce sera un peu lourd. Ou alors on peut faire des enquêtes spécifiques sur certaines problématiques, donc ce que j'appelle des enquêtes ad hoc, pour vérifier, des enquêtes ad hoc qui peuvent être quantitatives ou qualitatives et qui peuvent porter sur des descriptions objectives. Alors ici, sur le développement des facultés cognitives, c'est un peu compliqué, parce qu'il faudrait leur faire des tests aux gens et on ne serait pas forcément capable d'évaluer les tests, mais les psychologues proposent ici quand même quelques grilles d'analyse, de tests assez simples et qui permettent aux gens, dans un français normal, de répondre sur un certain nombre de thèmes, sur la mémoire, sur la compréhension qu'ils ont de l'espace où ils se situent, enfin des choses comme ça. Et puis, donc, c'est soit sur des tests, mais enfin, ça paraît pas... J'aurais une réserve personnelle à cet égard. Mais en tout cas, de demander aux gens de livrer leur perçu, enfin ce qu'ils perçoivent de l'effet qu'a leur fréquentation de la bibliothèque sur leur faculté cognitive. On pourrait aussi recueillir des pratiques contextuelles, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de considérer ce qui se passe dans la bibliothèque ou avec la bibliothèque, mais tout autour, parce qu'évidemment, on a du mal à imaginer que la bibliothèque serait le seul vecteur d'une augmentation ou d'un accroissement des facultés cognitives. Mais que c'est un ensemble de pratiques favorables ou défavorables du reste, parce que dans un pacte, il faut penser aussi à un pacte négatif. Et je ne sais pas si vous avez tous entendu parler de cette donnée assez inquiétante sur la diminution du quotient intellectuel moyen dans les pays européens. Donc là, il y a quelque chose. Le développement des facultés cognitives, c'est pas juste un truc en l'air. C'est quelque chose qu'il faut travailler et continuer de travailler. Alors, en utilisant les outils numériques, mais pour essayer de faire autre chose que ce qui est en train d'être fait. Donc voilà un impact, c'est lire, écouter de la musique, construit l'intelligence de l'individu. Dans un genre un peu plus drôle, et pour ceux qui connaissent l'ouvrage de Michel Petit, la construction de soi, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement... En tout cas, du logiciel, enfin, de la machine cérébrale en quelque sorte, mais quelque chose qui, en partant de la machine cérébrale, déboucherait plus sur la construction de soi, de son identité, de son rapport aux autres. Donc la construction de soi, ça part des compétences cognitives pour essayer d'embrasser un peu autre chose qui serait de l'ordre de la construction de sa sensibilité, de sa personnalité, et notamment et la compréhension du monde dans lequel on est, au sens large du terme. Donc je ne sais pas si j'ai fait allusion à Michèle Petit, c'est une dame, une anthropologue, donc, qui a réalisé une enquête sur les gens de milieux défavorisés, de banlieues, qui fréquentent souvent la bibliothèque et qui racontent, il y a plein d'histoires de vie très intéressantes sur comment est-ce que la fréquentation de cette bibliothèque leur a transformé leur vision du monde, enfin leur vision d'eux-mêmes déjà, et puis aussi du monde. Donc cette définition très générale se décline en trois sous-dimensions, ce qu'on appelle construction de soi, à voir avec l'élaboration psychique. C'est-à-dire que, comme le montrent beaucoup de psychologues, d'anthropologues ou de je sais pas quoi, l'ologue, c'est que avoir des images, c'est ce qui permet de donner forme et signification à nos propres affects. Vous connaissez tous la problématique de l'objet transitionnel, c'est-à-dire du monstre qui est sous le lit ou dans le placard, etc. Alors, évidemment, il n'y a rien, ni dans le placard, ni sous le lit, mais c'est un objet imaginaire par lequel on va donner une forme et une signification à quelque chose qui est l'angoisse. Et donc, on va pouvoir interagir avec autrui, la maman ou le papa, à propos de ce truc qui n'existe pas. Donc, on va lui donner une forme. Et c'est l'intérêt de la lecture, ou des contes, où on commence à donner figure à nos angoisses avant d'en rencontrer le véritable objet de cette angoisse. On parlait tout à l'heure des Cévennes. Le loup, c'est typiquement l'image de la peur, alors que personne n'a vu un loup. Hein. Enfin, voilà. Mais très tôt, on apprend à avoir peur et en désignant des objets de cette peur à travers des images. Bon, ça, c'est une élaboration, ce qu'on appelle l'élaboration psychique, dans la mesure où ça donne un contenu, enfin un contenant et un contenu à nos affects et qui permettent de rentrer dans un cycle d'échange avec autrui. On négocie la peur avec autrui, on se fait rassurer et ainsi de suite, etc. Donc il y a un travail sur soi, un travail avec autrui. Alors le sociologue que je suis est très attentif à tout ce qui est de la compréhension. La compréhension, c'est le fait de partager un sens commun avec autrui. Mais ce n'est pas quelque chose qui y est, c'est quelque chose qu'on est tout le temps en train d'essayer d'élaborer, la compréhension. Enfin, c'est un work in progress ou une réalisation pratique continue. Et comprendre le monde, se comprendre, comprendre les autres, etc., c'est quelque chose qui est tout le temps en train d'être travaillé, et notamment grâce au modèle que la culture nous apporte, quel que soit le support, livre, cinéma, voilà. Les supports ou les modèles culturels qui sont véhiculés dans toutes les formes culturelles, parce qu'ils donnent forme et signification à nos affects, nous permettent de nous entendre avec autrui à propos notamment de ça, mais encore de bien d'autres choses. Et donc il y a donc une mise en contenu, ou en contenant plutôt, de nos affects, une compréhension du monde, et tout ça finit par se réaliser ce qu'il est convenu d'appeler une instanciation, c'est-à-dire que le sujet réalise sa différence par rapport à autre chose que lui-même, et finalement devient autonome, en quelque sorte, est capable de lire ses émotions, capable de les comprendre, de les partager éventuellement avec autrui, en tout cas sous un autre mode que celui du geste automatique, c'est-à-dire de violence, par exemple, ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de travaux qu'on réalise en ce moment en psychologie positive sur le thème « apprendre à reconnaître ses propres affects ». Et l'impact de la culture là-dessus est très, très remarquable. Donc, la construction de soi, c'est comment on donne forme et signification à ses affects, comment on les partage avec autrui, et comment on devient sujet pensant, relativement autonome en tout cas, parce qu'on est relié à des modèles culturels plus larges que les nôtres. Donc toutes les actions proposées par les bibliothèques à peu près rentrent dans ce registre-là, qui concernent la lecture ou toutes les autres animations visant à faire découvrir d'autres univers culturels. En tout cas, voilà. Tous les publics sont également concernés. Là encore, l'image de soi extrêmement défavorable quand les publics les plus vulnérables, notamment dans le contexte d'une déprivation culturelle longue et profonde, enfin, c'est assez remarquable de voir la difficulté que certains ont à pouvoir dire leurs affects, comment ils vont, tout simplement. Alors là, si on essaye d'imaginer ce rôle, enfin cet impact des bibliothèques sur la construction de soi, alors là, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse réaliser des enquêtes quantitatives là-dessus. Je ne sais pas trop comment on faudrait faire. Là, pour le coup, une enquête qualitative avec des entretiens individuels, semi-directifs. Là, c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus fécond, notamment par les coqs à l'âne que les gens font. On fait à Grenoble souvent des enquêtes sur la réception des expositions au musée de Grenoble ou de la lecture ou des choses comme ça. Et souvent, les gens disent toujours « Ouais, j'ai un peu de temps à vous accorder pour répondre à votre entretien, mais vraiment, ce sera très bref. » Donc les gens s'assoient en général du bout des fesses sur une chaise en disant « J'ai 20 minutes à vous accorder. » Et puis une fois qu'ils ont commencé à me dire « Ah, j'ai aimé ça, j'ai aimé ça, j'ai aimé ça, j'ai aimé ça », ils disent par s'asseoir profondément dans le fauteuil et à parler pendant une heure et demie, sans qu'on puisse les arrêter à la fin, en disant « Oh, qu'est-ce que j'ai découvert avec vous ?» Rien. Il n'y a que la personne qui a parlé elle-même pendant une heure de ses goûts et des liens qu'elle faisait entre lecture, musique, elle, l'autre, son fils, ses enfants, son mari, etc. C'est toujours extrêmement riche, extrêmement fécond. Et là, on se voit très bien comme on l'entendait ce matin, si la bibliothèque n'était pas là. Et c'est bien l'enjeu du livre de Madame Petit sur la construction de soi. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas les bibliothèques dans les quartiers populaires ou quartiers dits en difficulté, etc., qu'est-ce qu'il y aurait ? Enfin, comment est-ce qu'on pourrait faire ça ? Donc, la construction de soi. Donc, je ne vais pas passer tous les registres d'impact, mais si vous voulez, on peut discuter de chacun d'eux plus tard, mais je vais monter d'un cran. Si on développe les facultés cognitives et si on participe à la construction de soi de façon correcte, entraînante en tout cas, on obtient des effets plutôt positifs sur la construction du rapport à autrui dans la catégorie de ce qu'on appellera citoyenneté, civilité, etc. Donc, par citoyenneté, civilité... Alors, je désigne pas tellement l'appartenance à une communauté politique, il ne s'agit pas de savoir qui a des papiers et qui n'en a pas, ou des choses comme ça, mais plutôt le sentiment d'appartenir à quelque chose de commun avec d'autres, et d'avoir une histoire commune. En se reconnaissant une histoire commune, on a des valeurs et des modèles de comportement qui sont relativement pertinents ou convergents. Donc... cette définition très générale repose donc sur un socle de sens commun, c'est-à-dire qu'il faut avoir des références culturelles vaguement communes quand même. C'est-à-dire que une des difficultés provoquées par l'accès aux cultures numériques, c'est qu'on peut avoir des visions très éclatées des réalités humaines, sociales, etc., sans que converge un sens commun de tout ça. Ici, l'institution... bibliothèque, parce que c'est des murs aussi, participe à la définition d'un dedans, d'un dehors et de ce qui est commun dans ce dedans. Donc des références culturelles communes, on connaît des auteurs, on a vu des films, on peut échanger à propos de quelque chose. Puis du coup, on peut avoir aussi des modèles de comportement qui sont tout à fait pertinents. Un grand sociologue américain, Erving Goffman, raconte comment avoir peur, pouvoir lire les émotions d'autrui à travers des modèles culturels, c'est un truc de base. La compréhension intersubjective, elle repose là-dessus. C'est que j'ai des modèles qui me permettent de lire ou d'imputer une signification aux messages émis par autrui. Et donc à manifester un comportement relativement pertinent à son endroit. Et puis ça peut aller jusqu'à des formes d'engagement, de solidarité, de liens beaucoup plus forts. Donc du coup ici, les références communes, c'est l'accentuation de toutes les actions qui portent sur la conservation, le patrimoine, la mise en valeur du patrimoine au sens où c'est l'ensemble des valeurs partagées. Et puis des actions de médiation dans les discussions, débats, etc. pour... introduire, et je suppose que tous les bibliothécaires qu'on a rencontrés nous en ont parlé, le rappel à l'ordre, le rappel à la loi aussi, y a des formes dans l'échange, et que ça va pas de soi, et que ce moment de réflexion entre la manière, quand on perçoit un affect et qu'on a envie d'y réagir, il faut laisser un espace, et se taire et écouter, et puis prendre la parole, et ainsi de suite, Donc créer un espace public, Donc ça concerne tous les publics, et puis toutes sortes de données aussi, quantitatives, qualitatives, qui sont détaillées. L'employabilité qui était peut-être moins évidente Bon, peut-être vous auriez pu être surpris, ben, les bibliothèques travaillent beaucoup à l'employabilité, non seulement sur l'angle des compétences individuelles des gens, que ce soit des compétences cognitives, etc., ou pas tellement professionnelles, mais plutôt d'un registre de compétences professionnelles qui n'est pas dans le contenu du métier, mais dans le partage du contenu de ce métier. Je vais vous expliquer ce que c'est dans un moment. Mais l'employabilité, ce n'est pas seulement des individus plus ou moins compétents, une somme d'individus plus ou moins compétents. C'est un environnement qui crée cette pertinence des gens qui vivent sur ce territoire. L'employabilité, ce n'est pas simplement des individus plus ou moins capables, c'est un système de relations qui favorise le fait que ces gens le deviennent. Donc on travaille donc beaucoup les compétences individuelles et environnementales. Alors c'est ça les compétences. Les bibliothèques travaillent en proposant par exemple beaucoup de bouquins sur le développement personnel, sur la communication, sur tout un tas de registres qui relèveraient plutôt de l'auto-formation ou des choses de cet ordre-là, sur des compétences qui sont de plus en plus importantes sur le marché de l'emploi et qui pourtant sont rarement formalisées. C'est-à-dire qu'en fait, avec la crise économique et les crises sociales qui ont eu lieu à partir des années 70, on est passé de modes d'organisation qui sont très hiérarchiques et structurés, ou verticaux, par exemple le travail à la chaîne ou le travail à la bureaucratie, etc., à des organisations qui travaillent beaucoup plus l'horizontalité, c'est-à-dire la capacité de chacun à coopérer avec d'autres à différents niveaux pour pouvoir résoudre des problèmes. Peu de formation porte là-dessus. Et c'est souvent des contenus de métier qu'on délivre dans des formations, quel niveau que ce soit. Et les compétences transversales de communication ne sont pas souvent mises en avant et sont travaillées de façon personnelle par les gens, même si... Ces compétences-là, il faudrait pouvoir les entretenir en permanence. Et c'est sûrement, enfin, en tout cas, on nous a beaucoup dit en milieu urbain que c'était quelque chose qui interpellait énormément les fonds bibliothécaires, notamment dans les livres, l'accès à des outils de formation numérique ou des choses comme ça sur ce registre-là de compétences. Donc. Les actions, c'est toutes celles qui portent sur des propositions de formation et d'information dans ce domaine-là, mais aussi la construction de tous les partenariats qu'ils portent sur ici les comités d'entreprise, le service public de l'emploi, SPE, et puis éventuellement, si on vise effectivement les publics les plus précaires, les secteurs sociaux et médico-sociaux. Et puis là aussi, énormément de statistiques sur... Il existe déjà énormément de statistiques, notamment dans le service public de l'emploi, sur les compétences, les capacités, de la main-d'œuvre localement. Mais on peut aussi essayer de compléter ces données par celles qu'on recueillerait par nous-mêmes. L'attractivité du territoire, c'était le dernier des impacts, c'est que si on réunit toutes ces conditions, j'aurais peut-être dû remettre ça, si tout ça est fait, et tout ça, enfin, c'est-à-dire on développe, on transforme les facultés cognitives, on développe les littératies, la construction de soi, ce qui améliore la citoyenneté, l'encapacitation des usagers, on accroît les pratiques culturelles et les pratiques numériques, on développe les réseaux et les partenariats autour de la bibliothèque, on favorise la démocratisation, la réussite scolaire, etc. Donc, voilà. Et à la fin, ça permet de construire un territoire beaucoup plus attractif. Alors, attractivité des équipements eux-mêmes, et puis l'attractivité du territoire, c'est-à-dire attirer de nouveaux publics, et puis rayonner au-delà de son territoire naturel. Encore une fois, j'ai donné l'exemple tout à l'heure de certaines grandes bibliothèques qui ont cette vocation-là, c'est-à-dire de devenir des établissements de référence culturelle à l'international, dans les zones frontalières, grandes bibliothèques de Lille, qui s'inscrit délibérément, en tout cas explicitement, dans le projet d'un rayonnement international. Mais encore une fois, dans une petite bibliothèque sur un terroir, c'est la même chose, quoi. C'est la même chose parce qu'il n'y a rien d'autre et qu'il faut... La bibliothèque du Py, dans la Drôme, exerçait son rayonnement dans son canton, entre deux grandes villes. Donc, Donc ici, il y a encore d'autres sources statistiques qui permettent de décrire les mobilités, les mouvements, qui vient, qui s'en va, quel renouvellement des populations, etc. Et on peut recueillir de façon ad hoc, évidemment, les raisons pour lesquelles les gens viennent, parce qu'il y a des équipements culturels, parce qu'il y a une animation culturelle. Évidemment, ça concerne peut-être sous cet aspect-là principalement les bibliothèques ou les systèmes de bibliothèques qui sont dans les zones métropolitaines, parce que l'organisation territoriale aujourd'hui fait qu'un accent est fortement mis sur le développement des métropoles qui se situent en compétition les unes avec les autres. Lille est en compétition avec Londres, Amsterdam, etc. Enfin, voilà. Et il faut proposer, à la fois pour s'acquérir des entreprises, les attirer, et puis des main-d'œuvre compétentes, qualifiées, etc., par ce qu'il est convenu d'appeler des effets de cluster, de créer en tout cas une émulation qui fait qu'on va développer une activité culturelle, intellectuelle, économique et sociale dans ces territoires. Alors là, ça devient majeur. Je ne sais pas si vous voyez toutes les images de communication, de publicité, voilà, parce qu'il y a ce qu'on appelle du benchmarking entre les villes qui se font de la compétition pour la ressource. Mais du coup, comme vous savez certainement, et l'INSEE vient de sortir ici la semaine dernière une nouvelle carte de la distribution des territoires et du bien-être sur les territoires, de la qualité de vie sur les territoires en France, bah, du coup, comme on met l'accent, le paquet sur les métropoles, dans les zones rurales, ça s'arrange pas, quoi. Enfin, ça s'arrange d'autant. Enfin, voilà. Et donc, du coup, les équipements ici ont peut-être un intérêt encore plus stratégique pour essayer de maintenir une qualité de vie potable dans les zones rurales. Cet appauvrissement et cet amoindrissement de la qualité de vie dans certaines zones rurales est tout à fait corrélé, c'est l'INSEE qui le dit, hein, avec l'essor du vote du Front National. Donc, alors voilà, des impacts qui partent de l'individu jusqu'au territoire. Après, l'idée, c'est que pour construire un plaidoyer, c'est de faire comprendre l'intérêt de notre action en faveur de la culture à des interlocuteurs qui ne sont pas de ce monde-là. Il faut construire des plaidoyers ou une rhétorique. Et c'est pour ça qu'on a proposé en second lieu de considérer le fait que tout ce schéma d'impact peut être traduit dans des univers de sens qui sont assez différents. Alors c'est pour ça qu'on fait appel à ce que des sociologues économistes comme Boltanski ou Thévenot appellent l'économie des grandeurs. Alors, le propos de Boltanski et Thévenot, c'est de dire qu'en fait, le monde n'est pas homogène. Il y a dans une société comme la nôtre différents mondes sociaux, chacun étant construit à partir d'un certain nombre de références, de langages ou pratiques qui sont tout à fait singuliers. Et en examinant un énorme corpus de bouquins, Boltanski avait commencé d'identifier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 mondes ou 6 cités, et puis d'autres travaux plus récents, on a ajouté 2 autres. L'idée, c'est que chacun de ces mondes a son propre langage et sa propre manière de donner de la valeur à des choses. Alors, par exemple, dans une société civique, c'est un certain. Alors, une société civique, ce serait un monde social, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui font des choses ensemble et qui partagent un langage commun qui est structuré autour de valeurs communes qui pourraient être formulées en termes de solidarité, d'égalité, de liberté, mais dans le respect d'autrui, etc. etc. Voilà. Et alors évidemment, ça, on a un monde, par exemple, les mondes associatifs, par exemple, qui tournent au soir, ou socioculturels, ou de l'éducation populaire, par exemple, ou des choses comme ça. Et ce qui n'a strictement rien à voir avec la cité industrielle, par exemple, où c'est tout un tas de monde, enfin encore une fois un autre monde qui est valorisé par la performance, la fiabilité, la fonctionnalité, les choses qui marchent, vous voyez. Et qu'est-ce qu'il y a encore, ah oui, de pire, enfin de plus encore différent que la société civique, ce serait la société marchande où c'est le business, c'est-à-dire la valeur, c'est la quantité d'argent qui va être évoquée, par exemple, en termes de marché. Alors le projet de messieurs Boltanski et Thévenot, au départ, c'est de décrire cette diversité des mondes et des conflits qui naissent à l'intérieur de ces mondes et entre ces différents mondes. Donc, c'est des sujets de controverse, etc. Eh bien, nous, il faut essayer de considérer le fait que si on veut faire valoir ou justifier, puisque le travail de Boltanski et Thévenot s'appelle « De la justification », c'est comment est-ce qu'on va pouvoir faire comprendre le but de nos actions dans des mondes différents. Si je m'adresse à un élu, et ça dépend quel élu, mais voilà, il peut se situer, cet élu, dans des cités ou dans des mondes différents. On peut avoir un élu farfelu venant des mondes de l'art, par exemple, qui serait plutôt se situerait dans le monde de la cité inspirée, c'est-à-dire valorisant l'imagination, la créativité, des choses comme ça, qui serait tout à fait différent d'un élu venant, je ne sais pas, de la médecine telle qu'on la pratique à Grenoble avec beaucoup de machines, beaucoup de performances industrielles, etc. Et dans lequel bah, il faudrait dire cause, effet, produit, action, réaction, enfin des choses comme ça. Voilà. On va pas développer le même langage. Donc la bibliothèque ou la manière de comprendre les différents impacts des bibliothèques ne se comprennent pas de la même façon dans ces différents mondes. Dans une société, dans une cité civique ou dans le monde civique, une bibliothèque, on va souvent mettre en avant le fait qu'elle est ouverte pour tous, qu'elle est citoyenne, qu'elle est, voilà, qu'elle s'inscrit dans des valeurs de solidarité, etc. Dans un autre registre, on pourrait la comprendre comme est-ce qu'elle fait ce qu'elle doit faire ? Est-ce qu'elle est performante ? Est-ce qu'elle réalise l'objectif qui lui avait été assigné ? Dans une certaine cité de l'opinion qui n'est pas tout à fait étrangère à ce que je disais tout à l'heure sur la compétition, par exemple, des métropoles, c'est une idée de réputation. C'est-à-dire, est-ce que c'est une bonne bibliothèque ? Est-ce que c'est là que je vais aller quand je vais me promener à cet endroit-là, quoi ? Enfin, voilà. Ou alors, est-ce que je vais même aller me promener à cet endroit-là pour voir cette bibliothèque ? Donc, il y a la réputation, ce qui est visible, ce qui est objectivé avec... la réputation, c'est-à-dire ce qu'en disent l'image qui s'en dégage à travers des médias. Voilà. Une bibliothèque envisagée sous l'angle du projet, de la construction de projet, dans une dynamique très innovante, on va faire plutôt attention à justement est-ce qu'elle crée des projets, est-ce qu'elle est capable de se remettre en question, est-ce qu'elle va bouger, etc. Contrairement à une cité domestique où bah, est-ce qu'elle est accueillante, est-ce qu'elle est sécurisante, etc. Alors, en fait, une bibliothèque, c'est tout ça à la fois. C'est tout ça à la fois. Ça doit être rassurant, ça doit être accueillant et rassurant. Ça doit cependant bouger, mais pas trop. Ça doit être solidaire, etc. Enfin, vous voyez, ça doit être tout ça. Mais il s'agit ici de mettre l'accent sur l'une ou l'autre de ces dimensions pour essayer de convaincre... nos interlocuteurs de l'intérêt de ce que l'on fait. Donc du coup, les impacts vont pas du tout être les mêmes, ni présentés de la même façon selon à qui on s'adresse. Mon plaidoyer, en tout cas, en direction de personnes dont je pense qu'elles se situent dans une cité civique, je vais plutôt mettre en avant ce qu'on a appelé la démocratisation culturelle, l'accès à la citoyenneté, l'encapacitation, des choses comme ça. L'encapacitation sous un certain angle, la capacité des habitants, des usagers à mettre en place des solutions pour résoudre leurs propres problèmes, ce qui relèverait par exemple de l'innovation sociale, de partager des projets solidaires, etc. Si je m'adresse à des gens qui se situent plutôt dans une cité type industrielle, c'est plutôt objectif, point à atteindre, est-ce que c'est réalisé, est-ce que c'est pas réalisé. Enfin, voilà, je vais développer un discours un peu différent. On voulait tant de personnes, voilà ce qui est effectué, réalisé, ou sur un plan plus qualitatif, mais peu importe. C'est en tout cas toujours la mesure dans le monde industriel, enfin dans le monde de la cité industrielle, c'est... est-ce que ça marche ou pas ? Est-ce que ça fait ce que... Donc, chaque cité est notamment construite autour d'une épreuve qui objective son existence. Et pour un ingénieur, par exemple, dans le monde industriel, c'est ça marche ou pas ? Voilà. C'est très... J'ai réalisé il y a très peu de temps là, une enquête sur les conditions du bien-vivre. Et c'était marrant de voir les médecins qui se situaient dans la cité industrielle parce qu'en eux, ils ne se posent aucune espèce de question d'ordre éthique. C'est est-ce que ça marche, oui ou non ? Voilà. Alors, ils venaient d'inventer un pancréas artificiel. Donc, on dit sur le plan éthique, c'est indiscutable. On va guérir le diabète, c'est presque sûr. Mais les types, vous dites, mais après, alors voilà, on sait faire un cœur, après, on sait faire un pancréas, on va savoir. Et du coup, ça va s'arrêter où, votre truc ? Et bon, on s'en fout, ça marche. Donc, voilà. Donc, après, c'est des brevets, c'est de l'argent, enfin, etc. Donc, je ne sais pas si ça existe, mais est-ce qu'une bibliothèque devrait se justifier, en tout cas, ses modes de fonctionnement dans une cité marchande ? Mais peut-être, oui. C'est-à-dire que oui, il y a de l'argent qui passe à travers une bibliothèque. Elle crée de l'activité économique et culturelle. Et culturelle sans l'économie, voilà. Donc il y a effectivement des questions qui peuvent se formuler sous un certain angle, en termes de rentabilité, d'objectifs financiers, économiques, etc. Nonobstant, bah oui, des qualités d'accueil, de convivialité. On a beaucoup parlé de ça quand même sur la familiarité d'une bibliothèque avec l'accueil et le caractère rassurant. Tout à l'heure, il en a été question d'ailleurs du familier quand on parlait de la BPI en particulier, son côté familier. Voilà. Bon. Eh ben voilà, c'est-à-dire on va, parmi tous les indicateurs d'impact dont je vous ai parlé, on va pas retenir les mêmes et on va pas les traduire de la même façon selon à qui on s'adresse, parce que ça suppose un sens différent. Même le même indicateur comme incapacitation, je sais pas si ce mot vous est familier, mais ça veut dire un peu, enfin il vient de la tradition anglo-saxonne empowerment, qui dit les gens se mobilisent pour résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Donc ça vient des mouvements des droits civiques dans les années 60 ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, c'est simplement, enfin, c'est pas plus simple, mais est-ce que les gens sont capables de développer leurs propres projets ? C'est une des pierres fondamentales de l'œuvre d'un économiste qui s'appelle Amartya Sen sur le développement. On dit le développement, un développement social et économique dans une société comme la nôtre, c'est la capacité qu'ont les gens à développer leurs propres projets pour résoudre leurs propres problèmes. Ben, cette incapacitation, si on est dans une cité civique, ça va être des projets solidaires, des projets citoyens, des mobilisations collectives, etc. Mais ça peut être aussi, dans une société industrielle ou marchande, la capacité des gens à se mobiliser pour atteindre des objectifs en termes de professionnalisation, des objectifs de carrière ou des choses comme ça. Ben, voilà. Donc on a le même mot, le même concept, mais qui va se décliner, qui va se dire de façon différente selon à qui on doit avoir affaire. Et puis, évidemment, à chaque fois, dans ces différentes cités, il y a des partenaires qui sont différents et à qui on peut développer, en tout cas, notre plaidoyer de la bibliothèque. Alors, si on s'adresse à des bénévoles ou si on s'adresse à des personnes de la fonction publique, il y a toujours des gens tout à fait différents à qui il faut probablement essayer de parler un langage plus approprié. Voilà. Les travaux de Boltanski s'inscrivent dans une réflexion autour de la sociologie de la traduction, c'est-à-dire qu'en fait, pour que quelque chose fonctionne, il faut bien que deux mondes se rencontrent. Et pour se rencontrer, il faut créer des passerelles, un sens commun entre les mondes. Sinon, comme le raconte un éminent sociologue, Michel Calon, sur la sociologie de la coquille Saint-Jacques, voilà, un chercheur qui rentre du Japon et qui a appris des Japonais comment cultiver la coquille Saint-Jacques, s'y rencontre directement un pêcheur de la baie de Saint-Brieuc qui prélève de la coquille Saint-Jacques pour lui apprendre à la cultiver plutôt qu'à la prélever, ça va pas marcher. Voilà, je dis ça, je suis breton, hein, donc j'ai rien contre les briochins, mais voilà, un chercheur bac plus 5 qui rencontre un pêcheur breton, il va se prendre un coup de boule vraisemblablement très vite. Par contre, il faut une chaîne de traduction qui va faire perdre du temps, mais en tout cas qui va permettre de faire comprendre. Enfin, que, en fait, l'idée de cultiver la coquille Saint-Jacques vienne du pêcheur lui-même. Qu'il ait l'impression, en tout cas, que c'est son projet et que le pêcheur breton va aller voir le chercheur pour lui dire comment on fait. Et du coup, là, les deux mondes fonctionnent. Mais deux mondes culturels, sociologiques, intellectuels différents, s'ils se rencontrent comme ça, de but en blanc, ça va pas matcher. Voilà. Ben là, c'est un peu la même problématique. C'est-à-dire, je défends les valeurs citoyennes de ma bibliothèque, mais si je m'adresse à quelqu'un qui se comprend lui-même comme appartenant au monde de la cité marchande, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, le projet sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est donc d'essayer de rendre compte, d'essayer d'énumérer, d'identifier ces impacts et d'essayer de proposer des moyens de les évaluer pour essayer de construire un plaidoyer qui, lui aussi, doit se construire de façon tout à fait différente et rendre sensible, en tout cas, aux différences de sens que peuvent avoir l'action d'une bibliothèque dans les mondes dans lesquels elle doit être reçue. Et ces impacts doivent être et construits et compris de façon plurielle. Voilà. Et bien, voilà ce que j'avais à vous dire sur les impacts. Merci.
Bonjour, ce n'est pas une question, c'est une remarque. Nadège Bouvard, agglomération de Paris, enfin le T2, nouveau territoire. Par rapport à votre travail, je me remémorais le travail qu'ont fait une société privée pour le compte du territoire, où, à l'inverse, on voyait la baisse de l'impact du culturel. Et les deux tenants pour l'attractivité du territoire, les trois, c'était évidemment l'emploi, le transport et la qualité reconnue des grands lycées et collèges sur le territoire. Et l'impact de tout ce qui était culturel, au contraire, venait même après l'impact des équipements sportifs, par exemple. Donc, je voulais savoir comment vous le compreniez, parce qu'on avait des données qui étaient totalement inverses.
Ah, mais c'est pas l'inverse, parce que moi, je dis que c'est un impact théorique. C'est-à-dire que théoriquement, si on maille un... Alors, je ne sais pas, comme ça, une réaction. J'ai travaillé sur les pratiques culturelles à Lille. Je pense que les élus auraient eu... Les élus et l'enquête montraient un résultat tout à fait différent de celui-là aussi. Donc, peu importe. Ici, ce sera... moins culturel, ailleurs ce sera plus important. Je pense qu'il faudrait comprendre, par exemple, alors c'est typiquement ce qu'on veut dire, c'est que l'impact culturel, il a des valeurs, significations différentes d'un endroit à l'autre, il a des priorités sans doute différentes. À Lille, après l'échec de la mobilisation autour de la coupe de foot ou de je sais pas quoi, et qui s'est devenue la capitale européenne, etc., là, on a un exemple dans lequel la culture a été portée comme quelque chose. Et finalement, ils en étaient assez contents parce que ça changeait complètement, beaucoup plus radicalement, l'image de l'agglomération lilloise de populaire, enfin, tout en essayant de rester populaire, mais en tout cas de lui donner un prestige un petit peu différent. Donc ce que veut dire ici la place de la culture dans le rayonnement, par exemple, donc, c'est une conséquence possible. L'activité de toutes ces structures... culturelles, dont les bibliothèques font partie, participent au rayonnement culturel et alors participent. Alors, quelquefois beaucoup, quelquefois pas beaucoup. Mais je ne sais pas comment a été faite cette enquête. Évidemment, si vous mettez dans la même balance avoir un boulot ou lire un livre, comme ça, c'est un peu sauvage, vous voyez, comme procédé. Donc, et puis il y a aussi tout ne tient pas forcément dans c'est pas parce que les gens disent, enfin, hiérarchisent d'une certaine façon dans leur manière à eux de percevoir les choses que c'est ça qu'il faut faire. Je veux dire par là, voilà, un peu dans le même ordre d'esprit, c'est que dans mes indicateurs de bien-être en France comme ailleurs, souvent quand on demande aux gens est-ce que l'environnement c'est important pour vous, souvent, ça vient bien après tout un tas de trucs, l'emploi, je sais pas quoi. Et pourtant, en tout cas, à Grenoble, c'est ce qui a fait l'objet de notre travail, c'est qu'un tiers des enfants naissent avec des problèmes pulmonaires. Donc, à la limite, je dirais pas, ça sert à rien de leur demander leur avis aux gens là-dessus. Vous voyez, c'est qu'il y a une politique d'amélioration de la qualité de l'air à produire, mais d'urgence, parce que voilà. Donc la donnée subjective qui consiste à dire est-ce que les gens en veulent ou en veulent pas, ou en ont besoin, ou est-ce que ça compte ou ça compte pas, je pense qu'encore une fois, je ne sais pas quel était ce cabinet ou quelle était l'affaire, mais comment est-ce qu'on traduit ça en termes compréhensibles ? Alors comment, par exemple, au lieu d'opposer l'emploi et le culturel, il y a en suivant ce schéma, on pourrait dire l'employabilité du territoire et les ressources du territoire reposent en partie sur le réseau de structures culturelles. et que c'est pas fromage ou dessert, c'est pas il y a de l'emploi ou bien de la culture. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas. En tout cas, moi, je n'ai pas mesuré l'importance que ça doit avoir. Je dis que nous avons essayé de dire quels étaient les impacts possibles des bibliothèques dans un domaine, enfin dans tous ces domaines-là. Mais je ne sais pas quelle est la contribution sur chaque territoire, etc., de cette dimension.
Oui, bonjour, je m'appelle Gérard Marquis et je suis co-auteur d'une étude récente sur les interactions entre les jeunes, le numérique et les bibliothèques et les territoires, qualitatif, une étude qualitative principalement. Je voulais savoir, par rapport au public jeune, au plan méthodologique, quelles étaient l'approche que vous avez pu avoir. Et puis, vous disiez au début que le rapport était en cours d'écriture. Vous en avez tout. Est-ce que vous avez des éléments particuliers à nous communiquer par rapport à ce public, toujours, sur cet angle-là?
Ben, je n'ai pas de, données particulières. Je vous ai expliqué comment on a fait. On a lu la littérature et on a essayé d'assembler les trucs. Mais après, tout le monde nous en a parlé. On l'a lu beaucoup. Il est évident. Alors, c'est pour ça qu'il y a... Alors, c'est pas une compétence que j'ai... proposé comme exemple, mais par exemple les littératies, la littératie numérique, enfin la littératie c'est une notion assez large et qui a beaucoup changé depuis qu'elle est venue d'Amérique du Nord il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Au départ c'était lutter contre l'analphabétisme et puis c'est devenu de plus en plus vers l'acquisition des codes qui permettent l'utilisation d'une information. Donc aujourd'hui en France tout le monde sait lire ou presque, mais comment on donne sens à une lecture, ça, de toute façon, enfin, ça reste encore à, et peut-être plus que jamais d'ailleurs, à retravailler. Donc, associer les différents supports culturels, numériques et non numériques, ça paraît extrêmement important. Et notamment, enfin, tous les travaux qui portaient sur les régimes de l'attention, notamment sur la diffraction de l'attention des enfants très jeunes avec un usage non contrôlé, non encadré, en tout cas des technologies, fait que là, il y a un enjeu assez important sur essayer de construire de l'attention, du suivi et néanmoins du lien entre différentes formes culturelles, c'est-à-dire lecture, musique, film, voilà, sur ordi ou sur papier, etc. Associer les différents registres de représentation pour essayer de favoriser le développement des facultés cognitives correctes et ainsi de suite, enfin tout le truc. Mais voilà, mais on n'a pas de terrain là-dessus en particulier. Hein, mais en tout cas, tous les bibliothécaires qu'on a rencontrés faisaient extrêmement attention à ça, quoi. Et la bibliothèque de banlieue développait... il y avait 4 bibliothèques, donc j'appelle la bibliothèque de banlieue, parce qu'il y avait une de grand centre-ville, une de zone rurale, une ville moyenne et une banlieue. Donc la bibliothèque de banlieue faisait des ateliers hors les murs, par les équipes de prévention, etc., pour attraper ces jeunes qui ne venaient pas dans la bibliothèque et les séduire, etc., à partir du jeu, mais en développant exactement la même politique qu'à l'égard du livre. C'est-à-dire, oui, je te propose des jeux comme ceux auxquels tu joues de toute façon, mais je vais te faire découvrir d'autres jeux, et on va passer à des jeux qui sont des œuvres culturelles, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on va essayer d'accroître l'intelligence du jeune dans sa manière d'approcher des jeux vidéo. Donc, je trouvais ça remarquable. En tout cas, tout à fait pertinent pour illustrer ce que c'est que... une action en faveur du développement des facultés cognitives, des littératies et de la construction de soi avec un objet numérique. Voilà.
Merci. Bonjour. J'avais une question. Je dois me présenter. Alors, je suis doctorant au laboratoire Géricault, qui est le laboratoire de sciences de l'information et de la communication de l'Université de Lille. Et donc, ma question, c'était à propos des espaces. Parce que, en fait, c'est à propos de l'attractivité des territoires. J'aurais voulu savoir si, dans votre étude, vous étiez intéressé justement à l'orientation et l'organisation des connaissances en lien avec les espaces. Est-ce que ça a un impact sur la manière dont les gens se repèrent dans la culture et dans les connaissances, en fait?
Quels espaces, par exemple, le territoire?
Les espaces de la bibliothèque.
Dans la bibliothèque.
Alors, dans la bibliothèque et puis autour de la bibliothèque aussi. C'est-à-dire comment elle s'insère dans les espaces du territoire.
Alors, l'espace, il est... le fait qu'il y ait une bibliothèque comme bâtiment, et qui délimite un espace favorable, participe pleinement de ce que je disais tout à l'heure à propos de l'instanciation symbolique. C'est-à-dire, il y a un dedans et un dehors. Donc déjà, on fait des choses dans la bibliothèque qu'on ne fait pas dehors. Enfin, en principe. On est en principe. Et donc, d'où l'idée, tout à l'heure, j'entendais parler de magie ou des choses comme ça. Enfin, voilà, il y a un sociologue américain, Erving Goffman, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui parle des cadres de l'expérience et qui raconte comment nos institutions sont des espaces qui délimitent des manières d'expérimenter la réalité d'une façon complètement différente. Par exemple, un cinéma, on peut payer des fois des sommes assez remarquables pour voir des gens se faire découper à la tronçonneuse ou des trucs. Enfin, voilà. Et pourtant, alors, on frissonne, on a peur. Souvent, on y va à plusieurs pour rire, jouer, en ayant peur, etc. Bon, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la même peur devant une tronçonneuse sur un écran que quelqu'un que je vais croiser dans la rue tout à l'heure. Ça va être un peu flippant. Et l'idée, c'est que la définition de la réalité, elle tient dans le cadre. C'est-à-dire le théâtre, frapper des coups au sol pour dire dou, dou, dou. Là commence un espace, ou quand un conteur commence toujours par dire cric-crac ou je ne sais pas quoi, toujours par une formule pour dire maintenant commence, s'ouvre un espace et un temps dans lequel il va y avoir quelque chose de particulier. Et donc, souvent, dans les réactions qu'on a, et puis j'en ai entendu un peu ce matin, ce qui se passe dans la bibliothèque, ce n'est pas ce qui se passe dehors, c'est quelque chose d'un peu à part. Alors après, dans la bibliothèque, il y a encore d'autres espaces. Et j'ai l'impression, mais là, c'est vraiment, c'est à l'expérience, mais il y a des bibliothèques qui ont été construites avec des modules et des espaces et des manières d'être différentes, comme par exemple à Grenoble, il y a Kateb Yassine, une bibliothèque qui propose des manières de se comporter et d'être qui sont tout à fait différenciées. Être assis, être allongé, enfin pas allongé, mais en tout cas avachi, prendre ses aises, etc. Enfin voilà, il y a différentes manières d'expérimenter, de s'expérimenter soi, d'expérimenter son rapport à quelque chose dans des espaces qui sont pas séparés, mais en tout cas hétérogènes. Ça paraissait une conséquence assez logique. J'ai parlé tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais de la sociabilité qui se construit dans les bibliothèques. C'est voilà la difficulté qu'il y a, c'est de gérer des publics différents dans un espace comme ça. Il y a des moments pour être pour adopter des manières d'être différentes. Et des endroits de discussion, de cafétéria, etc. Ça ne doit pas être mélangé avec des endroits de lecture. En tout cas, dans plusieurs bibliothèques, il y avait cette discussion sur comment est-ce qu'on peut créer des espaces hétérogènes qui permettent de s'actualiser différemment, c'est-à-dire d'adopter des postures, y compris corporelles, différentes, et pour être différemment avec autrui ou avec des objets culturels. C'était assez important. C'est bien ce que disent tous les psychologues sur la connaissance, elle est d'abord corporelle. Donc, favoriser différentes manières d'être, etc. Ça peut être assez important, et notamment avec autrui. Mais la difficulté, enfin, je ne sais pas si... Je parlais de la bibliothèque tout à l'heure de Kateb Yassine. C'est une bibliothèque qui est à Grenoble, qui est dans un centre commercial et qui pose justement cette frontière du dedans, du dehors. Et il y a beaucoup de perturbations induites par des adolescents. C'est très sympa qu'il y ait beaucoup d'adolescents qui passent, qui traînent, qui glandouillent, etc., qui dragouillent, enfin, qui font tout ce que font les adolescents, mais, et qui lisent assez peu, finalement. Mais voilà, en tout cas, c'est un lieu familier qu'ils fréquentent à leur façon. Bon, mais c'est vrai que ça perturbe. C'est très perturbant. Voilà, donc les bibliothécaires font un rappel à l'ordre. Enfin, c'est pas exactement le terme qu'il faut employer, mais en tout cas, questionnent les usagers sur leur comportement. Enfin, voilà, doucement, gentiment, aussi gentiment. Mais quelquefois, il faut juste mettre le haut là. Et ça s'observe dans tous les sens différents. Même dans la petite bibliothèque rurale, elle disait qu'il y a des personnes âgées qui aiment bien venir lire et qu'il y a aussi des enfants qui passent. Et que, évidemment, la personne âgée se sent vite perturbée par deux ou trois enfants qui jouent. Donc, les efforts sont à faire de part et d'autre. Non, mais comment est-ce qu'on crée ? Alors, la bibliothèque rurale faisait 145 mètres carrés. Donc, évidemment, on ne peut pas créer des espaces séparés dans si peu d'espace. Par contre, évidemment, quand on a 2000 mètres carrés ou je sais pas quoi, enfin voilà, évidemment, là, on peut créer des niveaux, des balcons, des choses comme ça. Enfin, donc oui, les espaces, c'est extrêmement important. Ouais. C'est pour cette idée que c'est ce qui définit le statut des êtres et des choses qui sont dans cet espace, comme le cinéma. Ce que je vois au cinéma, c'est pas ce que je vois dehors. Vous voyez, et donc il y a des espaces différenciés qui nous font être de façon différente, et que là aussi c'est un peu comme les mondes, il y a des problèmes de rencontres, de controverses ou de conflits, de frictions en tout cas entre ces espaces qui sont des moments différents. Entre le moment où je veux qu'on me foute la paix parce que je veux bouquiner, je veux pas de bruit, et puis où j'ai envie de parler à ma voisine, voilà, bon, ça peut générer des conflits, mais il faut, enfin, ouais, faut essayer de concevoir des espaces dans lesquels tout ça est possible. Ouais. C'est certain. Enfin, ça répondait à votre question. Non, ben, y a pas de quoi. Il y a un monsieur là-bas qui veut.
Ah, il y a quelqu'un qui voulait demander. Ouais.
Bonjour. Alors, Kevin Fellman de l'association Lire, c'est vivre, qui s'occupe des bibliothèques de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Et du coup, je voulais revenir sur votre schéma avec les différentes cités. Et je voulais venir sur le cas particulier de ma bibliothèque, puisque je voulais savoir, d'après vous, où se trouverait à peu près une cité de la sécurité, par exemple, donc une cité qui s'intéresserait plus à l'aspect ordre, sécurité, contrôle. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, je vois très bien.
Où vous le mettriez dans le schéma ?
Je vois très bien. Par contre, je ne vois pas très bien où ça... Ces cités, vous avez compris, c'est des espèces d'univers de référence un peu flottants. Alors, évidemment, dès qu'on les qualifie, on spécifie et on se prive de la possibilité d'en comprendre toutes les potentialités. Une prison, alors, Fleury, si vous avez affaire à des gens qui travaillent plutôt dans les ateliers, etc., on pourrait avoir quelque chose qui se rapprocherait de la cité marchande. Enfin, en tout cas, c'est les deux enquêtes que j'ai faites, dont une portait sur Fleury, sur le travail en prison. Et des gens se comportaient comme des businessmen. La prison, ça pourrait être un secteur d'activité assez économique, enfin rentable. Enfin, en tout cas, il faudrait tendre vers ça. Donc, voilà. Alors, je suis d'accord avec vous. On est dans un univers carcéral sécuritaire, mais pas que. Parce que vous savez que dans certains États d'Amérique du Nord, en tout cas, c'est un secteur extrêmement lucratif et qui peut servir de modèle, en tout cas, à certaines expériences qui sont faites chez nous. Donc la prison pourrait être en partie dans la cité marchande. Elle pourrait être, si je m'adressais au SPIP, ou en tout cas dans la vieille version des services de probation et de réinsertion, plutôt dans une société civique, avec des types un peu engagés, peut-être même le Génépi. Enfin voilà, il y a tout un tas d'acteurs dans la prison qui sont... parfaitement dans une société civique de solidarité, d'engagement, etc. C'était de l'opinion, je ne vois pas, mais... voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. La cité domestique, y compris dans une de mes enquêtes à Fleury, notamment, il y avait un détenu qui était apatride et faisait des allers-retours depuis 1973, venait de Palestine, et entre la dedans et dehors la prison. Et finalement, qu'il était bien en prison, et voilà, il avait ses petites habitudes, etc. Enfin, je suppose que vous connaissez ce genre de personnes aussi, et qui sont en sécurité dans la prison. Et donc, en fait, voilà, juste, en fait, une institution comme la vôtre peut, selon à qui on s'adresse, et merci de m'offrir l'exemple, de revenir sur cette idée. C'est pas facile de penser ces cités, c'est une grosse critique qu'on a fait, parce qu'elle, voilà, il faut concevoir que c'est des systèmes d'acteurs différents. D'ailleurs, il peut y avoir un conflit dans une prison à propos de la manière de la concevoir, soit comme un projet de réinsertion, soit un projet économique, soit un projet sécuritaire. Enfin, voilà, c'est pas très stable. Et ça peut, d'une prison à l'autre, varier énormément.
Voilà. Bon, mais c'est bien. Alors, dans ce cas-là, je vous remercie au nom des organisateurs. Et puis, donc, je vais appeler les trois étudiantes, presque ex-étudiantes d'ECB, puisque les trois néo-conservatrices qui vont rejoindre leur poste bientôt, pour succéder. Merci beaucoup de cet exposé.